Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Éric Lesage.
Bonjour.
Alors grâce à vous, on va un peu oublier, j'allais dire, Chopin. Ça va changer un peu parce que certes, l'année du bicentenaire, on aime bien les anniversaires. Mais il ne faut pas non plus qu'on oublie que cette année, en juin, ça sera aussi le bicentenaire de la naissance de Schumann. Schumann avec lequel, on va dire, vous vivez de manière très intense, on va dire, depuis 2006. J'imagine que vous nous expliquerez un peu votre histoire d'amour, ou peut-être pas d'amour avec ce compositeur. Puisque vous êtes plongé donc depuis 2006 dans une intégrale de sa musique pour piano et musique de chambre. Le volume 9, je crois, sort là. Ouais. C'est déjà 9, on ne sait plus, il y en a tellement. axé cette fois-ci sur les trios. Alors, justement, cette histoire d'amour avec Schumann, à quel moment elle a commencé? Ce compositeur, vous l'avez abordé de quelle manière au tout début, même dans votre éducation musicale?
Au début, en fait, comme tout le monde, au conservatoire, j'ai commencé à travailler quelques pièces de Schumann au CNSM. Peut-être même avant, quand j'étais plus petit, mais je n'ai pas vraiment de souvenirs, à part le Gelbourer, quand j'étais vraiment tout petit. Disons que je l'aimais bien, mais je n'avais pas une relation spéciale avec lui, pas plus qu'avec d'autres compositeurs. Mais par contre, il y a un déclic qui s'est produit quand j'avais peut-être une vingtaine d'années, quand je prenais des cours avec Maria Curcio, qui était un grand professeur à l'époque. Enfin, c'était un peu celle qui m'a tout appris, c'était un genre de professeur de la grande tradition de Schnabel, Lupo, enfin, c'était quelqu'un d'un peu incroyable.
Figure et emblématique.
Oui. À l'époque, on était plein de pianistes français, elle travaillait avec elle à Londres. Ouais. Et voilà, et puis j'étais dans une masterclass en Espagne, et puis voilà, elle a commencé à faire travailler un élève sur les Davis-Bündler-Tänze de Schumann. Pièce que j'avais écouté justement quelques semaines avant et qui ne m'avait pas beaucoup plu. J'ai écouté ça à la radio et je n'arrivais pas à trouver que c'était du Schumann, je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Vous voyez, c'est bizarre. Et en fait, en écoutant faire travailler ce gars-là, ça m'a vraiment donné envie de travailler cette pièce. Ça m'a vraiment, c'est pas une illumination, mais c'était vraiment un genre de déclic. Parce qu'elle avait quelque chose dans le son qui était en même temps... très très lyrique et très très fragile, très très puissant et en même temps très très en toujours en questionnement. Et la musique de Schumann, elle est un peu comme ça, elle est en même temps très très puissante, très énergique et toujours dans le questionnement. C'est le fameux Varum ou le double, oui, Schumann c'est un peu ça. Voilà, et puis après j'ai travaillé de plus en plus et
comment ça se passe, c'est-à-dire que c'est une envie, un côté un peu recherché, approfondir, et à quel moment en fait c'est arrivé dans votre éducation musicale, je veux dire, vous étiez à quel...
J'avais déjà fini le CNSM depuis longtemps. D'accord. J'avais fini le troisième cycle, j'étais plutôt dans le trip concours internationaux, Petrouchka, Gaspard de la Nuit et Mephisto Waltz. Et voilà, et puis ça me plaisait pas plus que ça, mais disons que bon, je n'avais pas encore cassé le moule, enfin je savais ce que je voulais faire, mais bon, en même temps, comme j'étais assez précoce dans mon éducation, tout ça, il fallait bien vivre, donc... Quand on a 18, 19 ans, qu'on a tout fini, qu'est-ce qu'on fait? On fait des concours, hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix.
Savoir ce qu'on veut faire, vous dites, je savais ce que je voulais faire, ça veut dire que vous saviez que vous vouliez vivre de votre piano?
Oui, je savais que je voulais vivre de mon piano, mais je savais aussi que je ne voulais pas passer ma vie à jouer le deuxième concerto de Prokofiev. Donc c'était pas là qui était mon talent ni mon destin. Enfin, oui, c'est pas ce que j'avais envie de faire, et c'est en même temps un peu ce qu'on vous inculque quand vous êtes. Et quelque part, à juste titre, parce que maintenant je suis professeur aussi, je me rends compte que les élèves, il faut aussi les pousser un petit peu à voir ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils sachent aussi ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, bon, c'est pas non plus une critique sur l'enseignement musical, on fait ce qu'on peut. Mais bref, là, Schumann est arrivé, et. Ça m'a donné quelque part un but musical, parce que, outre la musique de chambre que j'adorais déjà à l'époque, mais je voulais pas non plus me cantonner à la musique de chambre, parce que dans ce métier on est aussi vite catalogué. Donc ça m'a fait aussi une fenêtre de lisibilité pour moi en tant que musicien. Je savais ce que j'avais envie de travailler, je savais dans quoi. Je sentais que j'avais quelque chose à apporter personnellement. Je sentais quand je jouais cette musique, j'avais quelque chose à transmettre. Vous voyez, parce que des fois, il y a de la musique qu'on joue, on est juste un relais. On joue et puis on la transmet. Mais il y a des fois, on a l'impression, peut-être que c'est faux, mais on a l'impression qu'on y apporte quelque chose de soi-même. Et comme la musique de Schumann, elle est en même temps très autobiographique, on peut avoir cette impression-là.
On se rend compte facilement, justement, ça, de savoir qu'on arrive à apporter. Je parle au début, évidemment.
Bah, franchement, peut-être c'est juste un mirage.
Vous avez parlé justement d'une expression assez forte de casser le moule, justement. Vous parlez de ces concours avec un peu, j'allais dire, ces figures imposées, où on peut faire le double salto, etc. Absolument. Et en même temps, voilà, trouver sa voix, dire ça, je ne veux pas le faire, vivre avec ces histoires d'étiquettes qu'on va poser rapidement sur le dos de tel ou tel musicien. Comment on trouve l'équilibre et comment finalement on sort un peu du cocon?
Il faut du temps, il faut du temps, un peu de chance, il faut des gens qui vous aident, il faut des bonnes rencontres. Moi à l'époque, je faisais ces concours-là sans y croire vraiment trop, donc ça marchait pas vraiment non plus, vous voyez, parce que j'y allais un peu comme ça, forcé, et du coup je testais un petit peu des morceaux, j'étais pas tout à fait dans le.
C'est un touriste, quand même pas.
J'étais un peu. J'étais un peu touriste, je veux dire, à vrai dire. Mais pas toujours, mais souvent, disons que ça me permettait aussi de faire du répertoire. Quand on a 18 ans, qu'on n'a pas beaucoup de concerts, on n'a pas beaucoup de buts non plus pour travailler, donc un concours, ça vous permet d'avoir des buts. Hein. On y va, on travaille, on s'aperçoit qu'on n'est pas prêt, puis on revient. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais non, mais casser le moule, je veux dire, il faut trouver sa voix, chacun. Chacun a son truc à développer. Moi, c'était la musique de chambre où je me sentais à l'aise, où j'étais vraiment dans ce que je pouvais faire de bien, mais en même temps, ça ne me suffisait pas. Donc.
Vous avez identifié le pourquoi, justement, de cette voix? Plutôt, pourquoi la musique de chambre? Qu'est-ce qui, finalement, vous...
Oui, moi, j'aime bien le contact avec la musique, j'aime bien l'échange, puis j'aime bien le répertoire, surtout. Je trouve que jouer un quatuor de Forêt, un quatuor de Schumann, un trio, c'est la musique magnifique. Donc, de se priver de le faire, je trouve dommage. Je trouve qu'il y a autant de musique là-dedans que dans un concerto. Seulement, un concerto, c'est d'autres qualités, c'est des fois un peu plus difficile, il faut montrer un peu plus les dents, des fois, donc il faut développer d'autres muscles, vous voyez. Mais voilà, je trouvais ça dommage. Et si c'était à choisir, j'aime autant passer ma vie à jouer des trios de Schumann que des concertos. Mais s'il fallait choisir, mais j'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir à choisir et d'avoir réussi jusqu'à présent, à pouvoir arriver à ce que les gens me demandent de jouer des concertos ou des récitals de la musique de chambre. Donc je touche du bois. Hein. Voilà, mais... donc voilà, Schumann, il est arrivé à ce moment-là, et puis j'ai travaillé, et puis comme je suis peu... C'est comme quand dans les écrivains que j'aime bien, quand j'aime bien quelqu'un ou un écrivain...
Vous êtes complétiste un peu, vous aimez...
Je suis un peu boulimique, quoi, j'aime bien tout lire, et que quand il y a quelques auteurs, donc du coup j'ai pas beaucoup lu, mais que ceux que j'aime beaucoup, je les ai tous lus, et la musique, c'est pareil. Alors j'aime bien Poulenc aussi, alors j'ai fait tout Poulenc, voilà, et... Ouais. Bon, là, Poulenc, c'était plus parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose vraiment à défendre dans cette musique-là, et Schumann, c'est plus personnel. Je trouve que dans Schumann, il y a vraiment... c'est une musique dans laquelle je me plonge, je me lasse pas. Alors, je joue pas que ça, hein, mais j'y reviens toujours avec... disons que c'est presque pas un double, mais c'est une musique qui me fait autant que je la fais. Vous voyez, c'est comme, on a dit souvent dans les essais de Montaigne, il les avait fait, ça l'avait aussi construit en le faisant. Et moi, Schumann, ça me construit en le jouant aussi, quelque part.
Thank you.
quel moment vous avez décidé justement de passer à l'acte, c'est-à-dire d'enregistrer une intégrale
Ouais, il fallait que je trouve une boîte aussi, aussi folle que...
Mais avant même de trouver la boîte, quoi, l'idée, ouais. C'est-à-dire l'idée, est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où vous avez dit, voilà, je veux me lancer dans ce...
Oui, quand j'avais une trentaine d'années, j'avais vraiment envie de faire ça. Donc ça fait longtemps que je travaille le répertoire, j'avais presque tout travaillé au moment où le projet s'est mis en route, il y a 4-5 ans. Sinon, ça n'aurait pas été possible de travailler un peu au dernier moment. Donc, c'est une musique avec laquelle je vivais depuis longtemps et j'avais travaillé... Les autres, donc après, il fallait trouver quelqu'un d'un peu fou. Alors Jean-Paul Combé était fou à souhait avec Alpha, et donc il est parti à fond dans le projet. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est à la période de récession du disque, où tout va mal, de faire un projet en 20 CD de Intégrale Schumann, c'était risqué. Mais je crois que Jean-Paul ne le regrette pas du tout. Moi, je suis très content du résultat parce que, bon, c'est avec les défauts et les qualités, mais c'est ce que je pouvais faire de plus personnel, que ça me représente vraiment pour Schumann.
Quand on s'attaque comme ça à un tel projet, que c'est pas juste une intégrale à la scène, c'est une intégrale au disque, donc quelque chose qu'on grave, qui reste, etc. Est-ce qu'on pense à ce qui s'est gravé avant ?
Ah oui, moi je suis très discophile, alors j'écoute beaucoup.
C'est aussi pour vous demander par rapport à ça, qu'est-ce que par rapport à une intégrale, qu'est-ce que ça représente pour vous le disque ?
Alors des fois ça peut être un mirage, ça peut être un peu prétentieux. J'ai l'impression que j'y apporte quelque chose de personnel et quelque chose d'utile. Il y a des œuvres, surtout dans les œuvres qui sont pas très connues, qui étaient pas très bien représentées, qui étaient pas bâclées par certains, mais qui étaient pas vraiment défendues à leur niveau. Voilà. Donc déjà, si j'ai pu réussir à faire ça sur certaines pièces, comme les études en particulier de Paganini, les sonnes pour la jeunesse, ou voilà quelques-unes comme ça. C'est déjà utile. Après, pour les grandes pièces, alors c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours évidemment des grands pianistes qui se sont ateliés. Alors quand on est face à Michelangeli dans le Carnaval ou Horowitz dans les Castagnana, choses comme ça, bon, évidemment, c'est différent. Il y a certaines œuvres que j'ai attendues pour enregistrer, pour d'être vraiment prêt, quoi. Et là, c'est le dernier volume que j'enregistre au mois d'avril. Oui, c'est drôle parce que c'est le Carnaval que j'enregistrerai en premier et c'est le Carnaval que je vais enregistrer certainement en dernier parce que c'est toujours pareil, c'est des œuvres emblématiques qui ont été hyper rabâchées, donc on a envie de trouver vraiment la meilleure, ce qu'on peut faire de mieux. Quoi.
Ça veut dire qu'inconsciemment, on a quand même les versions dites de référence en tête ou en soi ?
Ah oui, puis il y a celles qui vous plaisent à vous. Hein. Moi j'adore Yves Nat, donc je réécoute souvent ses interprétations à lui. Puis après, c'est des goûts personnels, moi j'écoute pour le plaisir. De toute façon, après, quand on joue la musique de Schumann, ou les autres aussi, on est incapable de copier telle ou telle version. On écoute, et voilà, moi j'écoute ça comme une nouvelle pièce. J'essaie de pas prendre le truc, mais des fois, on entend des choses, et c'est vrai que sur les grands musiciens, il y a toujours des trucs qui vous inspirent, quoi, tout simplement. Moi, je suis pas trop impressionné par mes collègues ou par les grands maîtres, ça m'empêche pas de vivre. Je suis content que je rencontre.
Non, mais sans être impressionné, est-ce qu'on vit avec eux d'une certaine manière?
Ah oui, absolument. Ouais. Voilà, il faut pas par contre qu'ils vous étouffent. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, je sais que d'avoir écouté quelques pièces de Bach par Gould m'avait complètement inhibé. J'étais incapable d'en jouer. Après, j'avais l'impression d'avoir des doigts et un cerveau en plomb. Donc voilà, il faut faire attention. Mais dans Schumann, j'ai pas encore trouvé un interprète qui m'inhibe. Donc c'est peut-être bon signe.
<C'est pas mal. rire> Étaler comme ça sur plusieurs années, une intégrale, voir la globalité, comment est-ce que ça vous donne, aujourd'hui, on arrive presque quasiment au bout, une vision différente de l'œuvre, comment finalement c'était un peu comme une relation presque amoureuse, la façon dont vous en avez parlé, le côté au début, vous n'avez pas eu vraiment de coup de foudre finalement, au tout début, ça s'est fait progressivement finalement, rétrospectivement, comment vous regardez ça, vous êtes toujours, bon, j'imagine que vous êtes toujours un peu dedans, en plus vous la jouez après, vous jouez sur scène, puis ça va pas se terminer de toute façon, inévitablement, je pense que ça va continuer. Comment, quel regard vous portez sur cette œuvre et surtout sur ce que elle a fait de vous aujourd'hui et elle fait de vous aujourd'hui dans
Ce que je vous disais, je crois que cette œuvre, puis le fait de jouer, de travailler, de l'enregistrer, ça m'a fait aussi. Quoi. C'est vrai que ça m'a fait progresser, je pense, dans mon jeu, dans ma compréhension de la musique. Voilà.
Est-ce que ça vous a fait découvrir des choses sur vous aujourd'hui, arrivant au bout par rapport à il y a 10 ans, tout simplement, ne serait-ce qu'il y a 10 ans.
Oui, ça, et puis la vie aussi. Hein. Donc je suis un peu différent maintenant qu'il y a 10 ans, mais je pense que oui, ça, la musique de Schumann étant tellement autobiographique, tellement personnelle, tellement quelque part, comment dire, honnête, mais pas au sens, c'est vraiment comme l'honnête homme. C'est une musique où il n'y a jamais de pause artistique. Mmh. Souvent, enfin, quelques fois, pas souvent, mais quelques fois dans la musique romantique, ce qui me déplaît, c'est qu'il y a une genre de condescendance à être un peu tristouné. Oui, il y a une mélancolie molle. Moi que j'aime pas trop c'est une image qu'en fait qu'on colle à la musique romantique. Et chez Schumann il est peut-être un peu maniaco-dépressif quoique, mais il est surtout très très vivant. Alors il est très vivant dans sa douleur ou dans sa joie ou dans, vous voyez, c'est une musique qui se bat. Alors je pense qu'il n'y a jamais de condescendance ou de vous voyez, on se complaît pas dans la mélancolie, dans le malheur ou dans je ne sais quoi. Donc c'est une musique qui donne de l'énergie, parce qu'on dit souvent c'est une image, quand tu joues du Schumann, t'es pas trop déprimé. Ben non, parce que Schumann, c'est la vie. C'est gai, c'est triste. Mais ce qui est bien chez Schumann, c'est que c'est une musique qui est énergique. Et même dans les dernières pièces, où on sent que la vie un peu le quitte, l'inspiration, il se bat pour conserver de l'inspiration. Il y a toujours cette lutte pour l'énergie. Et c'est ça qui est très, très touchant dans les variations fantômes, les dernières pièces ou les chants de l'aube. C'est qu'on sent qu'il est à la bout de force, mais il y a encore la petite machine de la musique qui tourne.
Comment l'interprète s'immisce justement dans ces parties-là quand c'est... Est-ce que pour vous, la connaissance de, j'allais dire, presque de la biographie, avoir des informations vraiment très précises quant à quel instant l'œuvre a été créée, à quel moment, etc., toutes ces informations que vous venez de citer par exemple, sont essentielles pour vous ? Vous, l'interprète qui finalement devait arriver à un instant T de la vie du compositeur.
C'est pas essentiel, mais c'est utile. C'est comme un acteur qui doit incarner un personnage. Si c'est un personnage qui a existé, autant qu'il sache un petit peu ce qu'il a fait, à qui il ressemblait, ça lui permet de plus s'investir dans le rôle et d'y ressembler. Et je pense que chez Schumann, c'est pareil. On peut très bien arriver à jouer sa musique de façon formidable sans connaître sa biographie, parce que c'est avant tout de la musique pure. Mais si on s'est un petit peu imprégné de sa personnalité, parce qu'il y a des très bons livres maintenant, voilà, ça peut qu'apporter, mais c'est pas fondamental.
Vous avez parlé d'utiliser le mot acteur. C'est quoi un interprète pour vous ? Vous êtes quoi ? Vous êtes un acteur, un passeur ?
Un passeur, certainement. Un acteur aussi, parce qu'on a un texte, on le recrée. Mais comme c'est un petit peu... L'acteur se sert de la langue, donc c'est plus direct. Nous, on a la musique, et donc il y a tout un code avant de rire. Mais c'est sûr qu'on doit incarner la musique. Et chez Schumann, c'est une musique très qui demande à beaucoup être incarnée. Sinon, c'est une musique qui ne passe pas en concert. On est évidemment des acteurs et des passeurs. Mm-hmm.
enseignez aussi. C'est quelque chose qui est essentiel par rapport à vous en tant que musicien, en tant qu'interprète, cet échange, même si parfois il est essentiellement dans un sens, mais il est peut-être aussi dans l'autre.
On apprend aussi des élèves. Hein. Moi, j'aime beaucoup enseigner. Ouais. Personnellement, je le fais au CNSM et au CRR, comme on dit maintenant à Paris. Et la musique de chambre et le piano, oui. Et puis l'année prochaine à Freiburg en Allemagne. Mais oui, non, moi j'aime bien ça.
C'est un besoin ou c'est juste une activité comme ça?
J'en ai pas besoin. C'est pas un besoin.
Certains interprètes disent que pour eux c'est vraiment quelque chose qui leur.
Je l'ai toujours fait. Ça fait 15. J'ai quasiment toujours enseigné depuis que j'ai 25-30 ans. Un petit peu, quelques heures par semaine. Mais je pense que si je le faisais pas, ça manquerait. Donc pour l'instant, je l'ai toujours fait. Donc je sais pas si c'est un besoin, mais c'est comme la cigarette. j'ai pas encore arrêté. Mais j'aime bien le contact et avec les jeunes générations. Et puis de travailler avec des élèves, c'est de leur. De toute façon, c'est une école aussi de on apprend à être très pas être très prétentieux avec ça, parce qu'on sait que des fois ça marche avec les aides, des fois ça marche pas, et c'est un rapport très personnel. Moi je sais que avec ma prof Marie Courtiot, c'était si je l'avais pas rencontré, je sais pas si je serais devenu pianiste ou si j'ai arrivé. Donc je sais que quelque part on est important, et quelque part c'est aussi un rapport personnel. Moi avec elle, ça s'est passé d'une façon, c'était immédiat. Elle m'a apporté quelque chose, et le premier cours qu'elle m'a donné, elle m'a gardé 8 heures si vous voulez. Donc elle a senti qu'il y avait quelque chose à elle sentait qu'elle pouvait faire progresser. Et bon, ça marche pas avec tous les élèves, mais il y avait quelques élèves avec lesquels on sait qu'on a été utile. Donc
c'est d'avoir une figure comme ça aussi importante pour vous, pas qu'en tant que musicien mais personnellement, qui fait que vous avez envie, sans être prétentieux, d'essayer de réussir.
Je pense que comme j'ai vu ce que c'était sur moi qu'un bon pédagogue, je sais que ça existe. Vous voyez, parce que je connais des collègues à moi qui enseignent, mais qui pensent que grosso modo ils servent à rien, si vous voulez. Que si le musicien est bon, il est bon, et s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et quelque part, ils ont raison, parce que c'est quelqu'un de pas bon, on ne pourra jamais le faire devenir bon. Quelqu'un de bon, il va se débrouiller sans nous, mais je crois que la pédagogie, elle se situe justement à la marge de ça. Un bon pédagogue, c'est aussi quelqu'un qui est bien avec l'élève. C'est un rapport à deux. Des fois, vous avez un bon pédagogue qui ne va pas marcher avec certains élèves. Donc, ce n'est pas non plus général, mais je pense qu'on se situe là. Il y a toujours un moment où l'élève, on va lui apporter quelque chose, alors qu'il soit bon, très bon, pas bon. Ça dépend de la relation.
Donc, cette promenée, une intégrale, je crois que vous allez y avoir un concert, notamment au Théâtre des Champs-Élysées
en mars.
Après être resté, d'avoir enregistré, d'avoir travaillé ces pièces en studio, dans un contexte sans public, etc., comment on aborde Schumann sur scène? Est-ce que pour vous c'est la même chose?
Ah oui, de toute façon, tout est tellement mêlé. Des fois j'enregistre une pièce et puis je l'ai joué en concert 10 ans avant, je la joue 2 ans après. C'est pas vraiment lié à ce que j'ai enregistré. Là, je vais faire le dernier volume au mois d'avril, juste après le récital au TCE, qui sera avec tout à fait notre programme. Donc c'est... disons que la musique de Schumann, il y a deux aspects. L'aspect quand on est en studio, moi j'aime bien être tout seul dans le studio avec Jean-Marc Léné qui fait le reste dans son studio à lui. On a un rapport comme ça, et moi quand je suis j'aime pas qu'il y ait des musiciens qui aiment bien qu'il y ait 2-3 personnes dans la salle d'enregistrement pour donner l'impression du public. Moi c'est vraiment un truc avec le micro quand j'enregistre, et c'est pareil, ça m'inhibe pas. J'ai l'impression de faire autant de musique quand je suis en concert. Par contre, en concert, il y a le côté justement ce qu'on disait, passeur, et faire vivre la musique de Schumann, la musique en général, quand on est en concert. Donc c'est d'autres. Mais on joue pas de la même façon, en même temps c'est quand même la même musique, et c'est les mêmes qualités. Quand vous écoutez un bon disque, ça ferait un bon concert aussi, hein. Moi j'aime pas du tout les disques qui sont aseptisés, qu'on écoute comme ça dans la voiture. Donc c'est pour moi c'est les mêmes qualités qui font un bon disque et un bon concert.
Vous êtes assez perfectionniste en studio par rapport à cet aspect d'être vouloir être
oui
seul,
oui bah, disons qu'en studio on peut se permettre, si on a fait une bonne prise musicale et s'il y a un petit accro de vos notes, de le refaire et de corriger. Donc ça c'est vraiment un luxe qu'on se fait disque qui est des fois pas indispensable. Là on prend du temps avec Jean-Marc pour corriger des petits trucs qu'en fait il n'y a que nous qui entendrons. Mais bon, c'est un luxe qu'on s'octroie parce qu'on peut le faire. Et mais de toute façon la base, et tant qu'il faut un flux musical, il faut une énergie musicale, c'est primordial. Après, s'il y a une petite faute dans une prise musicale excellente, on la garde évidemment.
Qu'est-ce que vous avez envie après cette intégrale, après ce côté un peu, ce monument un peu.
Ah bah j'ai un nouveau projet de faire un peu de musique de chambre de forêt là, qui est aussi une musique que je joue depuis longtemps. Et en fait, qui n'est pas complémentaire avec Schumann, mais qui n'est pas très, très éloigné, parce que Forêt était un peu considéré comme un Schumann français un peu pâteux au début. Mais voilà, je travaille un peu là-dessus, en musique de chambre, pour me changer les idées de Schumann. Et on va sûrement faire ça l'année prochaine ou dans 2 ans. Enfin.
Un projet se fait toujours un peu contre le précédent, vous pensez?
Pour non, changer non. Les idées un peu. Oh, bah, disons que je m'étais dit qu'après le gros projet Schumann.
Il va faire du Rachmaninov.
Oui, non, mais après, souvent quand on a un truc très très lourd à faire, un projet, on a une petite décompensation. Je me suis dit que je vais déprimer. Oui. Après avoir l'intégrale, avoir fait 20 ou 21 CD, là, ça, je vais sentir un peu sans but. Alors j'ai dit de faire un petit projet autour de Forêt après, ça permettait de faire le lien. Mais en même temps, il y a tellement de choses qu'il y a à faire, qui arrivent, donc je suis pas inquiet. Là.
Vous avez parlé en évoquant ce projet, que c'est un projet fou, de par la période actuelle, crise du disque, etc. Ces sujets, crise du disque, dématérialisation de la musique, toutes ces choses-là, ça vous intéresse, ça vous touche, enfin en tant que mélomane, en tant qu'acteur du problème, ça vous fait penser quoi tout ça?
Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis très 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 discophile. J'aime bien les instruments. J'ai une bonne chanifi. Non, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'est je suis comme tout le monde. Je suis en même temps. Je suis partagé. Hein. J'ai un iPod. J'ai beaucoup de musique dedans et j'ai beaucoup de CD. J'aime bien la qualité. En même temps, il y a du confort à avoir plein de musique dans son iPod. On peut télécharger tout ce qu'on veut de façon gratuite ou illégale. Maintenant, c'est vraiment. Franchement, je pense qu'on est tous dans un peu dans le flou artistique. Hein. Je suis pas pour qu'évidemment que tout soit gratuit, parce que ça serait la mort du petit commerce. Et puis de toute façon, je sais que pour leur faire un disque, c'est une économie aussi. Hein. Si on fait tout gratuit, il faudrait que tout soit gratuit. Voilà. Non, mais franchement, je suis pas persuadé que le CD soit amené à disparaître. Mais bon, c'est parce que je c'est ma génération, mais j'ai l'impression qu'un disque dur, c'est quand même un peu fragile. On a tous eu des disques durs qu'on complétait, et la durée de vie d'un disque dur, pour l'instant, elle n'est pas. À moins de faire des sauvegardes tout le temps, mais qui fait des sauvegardes tous les ans de ces disques durs. Enfin, c'est pas encore sûr. On va vouloir avoir une banque de CD online, c'est possible, je sais pas. Enfin, en tout cas, en tout cas pour moi, en tant que discophile, c'est formidable de pouvoir tout trouver, écouter, télécharger. Au niveau encyclopédique, c'est très intéressant. Au niveau économie, pour l'instant, je crois qu'on est un peu tous perdus.
Plus de musique, de par justement ce côté téléchargeable possible facilement, des disques durs énormes, mais finalement on n'écoute pas moins. Parce qu'il n'y a plus le côté quête d'avoir, d'acheter, etc. Et finalement on se retrouve avec des mélomanes qui ont. On peut leur citer. Vous parliez tout à l'heure d'être complétiste quand vous découvrez quelque chose, maintenant vous découvrez un artiste, n'importe quoi. Deux clics de souris, vous avez son intégrale sur votre disque dur, mais finalement, est-ce que vous allez l'écouter?
Vous avez absolument raison. De toute façon, le dernier rempart, c'est le temps. De toute façon, il faudra choisir ce qu'on écoute et ce qu'on lit. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a maintenant tout à disposition, gratuitement ou pour très peu d'argent. Il n'y a qu'à voir l'intégrale Mozart. Je me demande qui l'a écouté en entier. Hein. Mais bon, bref. C'est sûr que de toute façon, ce qu'il faut, c'est du temps. Et je sais, en travaillant, par exemple, les têtes de forêt, on les travaille, on les retravaille. C'est une musique tellement hypnotique qu'il faut l'écouter des fois 20, 30, 40 fois pour vraiment goûter toutes les arcanes. Et Je pense qu'on peut toujours acheter un disque à 20 euros et l'écouter une trentaine de fois et d'en découvrir encore toutes les richesses. Hein. Ça fait penser à Woody Allen qui s'est pensé, j'ai appris la lecture, je viens d'apprendre la lecture rapide en diagonale et j'ai lu Guerre épée, ça parle de la Russie. Ouais. Et c'est un peu ça. Ouais. D'avoir des disques durs de 200 gigas remplis de musique, on n'écoutera jamais.
Ça. Vous dites, j'ai un iPod, qu'est-ce que vous écoutez sur votre iPod en ce moment?
J'écoute Barbara Streisand, Dail, en ce moment, hein, parce que moi j'ai fait quelques disques. J'écoute Bob Dylan, j'écoute les derniers disques Massive Attack. Donc j'écoute plein de choses différentes. Ouais. En fait, sur l'iPod, j'écoute pas beaucoup de classiques. Sur les classiques, je préfère l'écouter en fait, ou sur une bonne chaîne ou dans voilà, l'iPod. Je fais beaucoup de podcasts aussi, à vrai dire. En voyage, c'est très bien. Non, mais bon, comme je suis aussi un peu boulimique j'ai deux iPods, ils sont bien remplis de plein de choses. J'aime bien faire des quiz dans les voitures avec des copains, de mettre plein de choses que je connais pas, des blindes têtes. C'est très amusant sur l'iPod. Je trouve que c'est un des trucs les plus rigolos avec l'iPod, c'est qu'on a 15 000 titres et là-dedans, on peut faire des trucs avec en voyage, c'est très rigolo.
Écouter des musiques autres que celles que vous jouez, ça a toujours été quelque chose. Essentiel pour vous, nécessaire ou c'est juste naturel?
Ah oui, bah j'ai toujours fait ça. Moi, j'adore le jazz. Je suis passionné de jazz. J'écoute pas tout. Je suis pas très techno. Je m'étais attiré par ça.
Jusqu'à Massive Attack. Hein.
Oui, mais c'est pas trop techno Massive Attack. Non, mais c'est comme j'adore Beaches Blue de Miles Davis, qui était la pré-techno, si on veut, dans ce cas-là. Voilà. Non, j'écoute plein de choses, puis ça m'intéresse. C'est du plaisir, c'est pas...
Donc vous n'avez pas tombé dans la chopinade actuelle du moment, vous aimiez de Chopin, vous n'avez rien de prévu par rapport à Chopin?
Non, Chopin même pas, non. Il m'a jamais aimé.
Vous êtes en tricentenaire pour...
Ouais, non, mais j'ai joué tout Chopin quand j'étais, quasiment tout quand j'étais au conservatoire, et j'ai, une fois que c'était pas obligé, j'en ai plus joué, ouais, donc c'est curieux, on m'en a pas proposé cette année là, donc j'ai même pas eu à refuser, peut-être un concerto une fois, mais voilà. Non, mais Chopin, ça procure pas de plaisir à l'écouter, et quand je le joue, c'est pas beaucoup mieux. Alors, je procure pas beaucoup de plaisir à l'auditeur, donc je préfère m'abstenir.
Est-ce qu'il y a des compositeurs qui ne vous touchaient pas il y a une 10-15 d'années et qu'on découvre en évoluant, en se construisant, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport à Schumann mais qui vous fait vivre tout simplement. Est-ce qu'il y a des compositeurs justement sur lesquels vous êtes revenu et...
Oui, de toute façon, c'est toujours pareil. Souvent, on n'aime pas parce qu'on ne connaît pas. Moi, Chopin, je connais bien et j'aime pas parce que c'est pas la musique que j'aime pas. Hein. C'est une musique géniale, une grande qualité, mais elle ne me touche pas. Donc voilà, c'est dommage, c'est un manque. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on n'aime pas. En apprenant à connaître, on aime plus. Les symphonies Sibelius, par exemple, au début, ça me parlait pas du tout. Je les ai écoutées, réécoutées. Après, j'ai même travaillé sans quintette avec piano, que personne ne connaît. Et au début, les musiciens avec qui je jouais, ils disaient « C'est quoi ça ?» Et puis on l'a joué, on l'a rejoué. Et puis maintenant, les musiciens avec qui je les ai faits, ils adorent, puis ils le font jouer à d'autres musiciens. Donc, non, il y a des compositeurs comme ça que j'ai découvert, ou des compositeurs plus immédiats, comme Mahler, qu'on aime quand on est tout jeune, et puis on y revient un peu plus tard, parce qu'on, pour d'autres raisons, quand on est jeune, c'est la baffe dans la gueule, parce que c'est très fort comme musique. Puis après, on y revient, Mais c'est tellement vaste, la musique pour moi, quand on parlait d'iPod, des disques durs, déjà dans quelques pièces, on met tellement de temps à en voir les beautés que...
Ce que j'allais vous demander, vous parliez tout à l'heure justement du temps, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une frustration, est-ce qu'il y a juste faire des choix, est-ce que c'est dur d'avoir à abandonner, de savoir que de toute façon, quand on veut se plonger dans une œuvre, voilà, et la vie ne fait pas...
C'est sûr, oui, c'est qu'un choix. Là,
c'est une frustration, finalement, on le fait naturellement, parce qu'on sait qu'on peut faire autrement.
Bah là, de toute façon, oui, c'est frustrant, parce qu'on peut pas, ou alors, être... C'est Gilles Deleuze qui parlant d'Umberto Eco, était en même temps terrorisé, en même temps admiratif, parce qu'il disait que c'était quelqu'un qui pouvait parler de tout, connaître tout, c'était formidable. Mais en même temps, je crois que c'est à l'époque de Goethe, où il disait qu'à son époque, on pouvait quasiment savoir tout sur tout, ce qui s'est passé sur les sciences, sur les arts. Quelqu'un pouvait avoir une connaissance un peu de son monde, enfin, le monde occidental, mais non, c'était évidemment terminé, parce que il s'est écrit plus de bouquins dans les 50 dernières années que depuis l'invention du livre. Donc, c'est une question de choix. Mais moi, pour revenir à Schumann, d'avoir plongé vraiment dans l'univers de Schumann, pour moi, c'est une richesse. En fait, on peut aller dans un sens, c'est-à-dire dans le sens de Umberto Eco, c'est-à-dire de tout connaître sur tout, ou alors dans le sens un petit peu de plonger dans une spécialité ou plusieurs spécialités, et à l'intérieur de ça, trouver des richesses. De toute façon, les richesses sont partout. Ce qui est important, c'est la quête. Hein. Ouais. On peut jouer tout et chercher tout partout ou chercher tout quelque part. Hein. C'est une question de point de vue. Hein. Ouais. Donc après, c'est pas frustrant. Sans la vie, c'est frustrant. Comme dirait encore Woody Allen, c'est pas terrible, mais c'est quand même trop court. Donc voilà, bon.
Merci Eric Le Sage.
Merci.
Thank you.
Jazzfest.com. Rencontre par Marc Zisman.